Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes sur, dans ce commentaire des Pères de l'Église de l'Évangile selon Saint-Luc au chapitre 20, qui est assez court, je vais peut-être pouvoir le terminer aujourd'hui, je vais voir. Dans ce qu'il y a à dire, sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église des chapitres 16 à 20 de Saint-Luc, c'est à la page 25, en haut de la page. Nous commençons par les 8 premiers versets. Il arriva qu'un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et lui annonçait l'Évangile, les princes, les prêtres et les scribes survinrent avec les anciens. Et lui parlèrent en ces termes, « Dites-nous par quelle autorité vous faites ces choses ou quel est celui qui vous a donné ce pouvoir ?» Jésus répondant leur dit, « Je vous adresserai moi aussi une question, répondez-moi. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils pensaient en eux-mêmes, disant, « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où il était. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis point par quelle autorité je fais ces choses. On voit très bien que les politiques de l'époque du Christ étaient aussi malhonnêtes, je dirais, que les politiques d'aujourd'hui. Ils ne cherchent pas le vrai, ils cherchent à troubler les gens en face d'eux. On le voit très bien ici dans cette hypocrisie manifestée justement par ces scribes et ces pharisiens, les princes, les prêtres, les scribes, c'était les membres du Sanhédrin également. Donc ils ne cherchent pas Dieu, ils ne cherchent pas le vrai. Pourtant ils connaissaient les Écritures, ils savaient tous que le prophète allait venir, que le Messie allait venir. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ arrive et au lieu de commencer à réfléchir un petit peu, de s'apercevoir que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa présence, remplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament et par ses miracles prouve son autorité divine, eh bien, il le rejette. Donc Jésus leur adresse tour à tour, c'est une question pour leur faire entendre que s'ils n'ont point voulu croire au témoignage que lui rendait Saint Jean-Baptiste, un si grand prophète, qui jouissait parmi eux d'une si grande considération, ils ne croiraient pas davantage lui-même lorsqu'il dirait par quelle puissance il a fait ces choses. Et lorsque Dieu ne voit pas la bonne volonté dans l'âme qui est en face de lui, il refuse de faire du miracle. Il ne fait pas des miracles à la lettre, je dirais, il ne fait pas des miracles à la demande. Notre Seigneur Jésus-Christ demande que l'âme qui cherche Dieu s'ouvre. Si une âme refuse de s'ouvrir, cette âme a refusé de chercher Dieu. Donc s'il n'y a pas un minimum de bonne volonté dans l'âme qui est en face de lui, notre Seigneur Jésus-Christ ne se dévoile pas à cette âme. Vous voyez ? Et souvent, on nous fait cette objection qui est très fréquente. Les fidèles nous disent, mais enfin, monsieur l'abbé, pourquoi est-ce que le bon Dieu ne fait pas des miracles aujourd'hui ? S'il apparaissait, faisait un grand miracle pour nous rendre un Saint Pédis, pour nous rendre un... pour convertir tout le monde pourrait se convertir, c'est extraordinaire, c'est beaucoup plus facile. Mais même si notre Seigneur Jésus-Christ revenait pour faire des miracles, directement ou indirectement, les gens ne se convertiraient pas, la plupart des gens ne se convertiraient pas. Imaginez un grand prêtre, un grand un grand missionnaire de Dieu, un grand évêque qui réapparaissent aujourd'hui et qui commencent à faire des miracles extraordinaires au nom du bon Dieu, même sous le nez des politiciens d'aujourd'hui, l'équipe de Macron. Est-ce que vous croyez que Macron se convertirait? Pensez-vous. Il ne se convertirait même pas. Parce qu'il ne cherche pas Dieu. Donc les miracles sont inutiles si l'intention droite n'est pas là. La première chose que notre Seigneur Jésus-Christ demande, c'est l'intention droite. On voit ça dans beaucoup de choses. Par exemple, la première condition pour qu'une vocation religieuse puisse, une vocation sacerdotale, une vocation religieuse, si, oui, puisse déboucher sur quelque chose, il faut l'intention droite. S'il n'y a pas l'intention droite, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que demande le catéchisme de Saint-Pédis, par exemple, pour pouvoir communier? Première condition, c'est l'intention droite. Bien sûr, il faut l'état de grâce, mais il faut l'intention droite, il faut chercher Dieu. Et on voit très bien ici que les politiciens, les membres du Sanhédrin, les prêtres de l'Ancien Testament, les scribes, les pharisiens, ne cherchent pas Dieu. Au lieu de constater cette autorité extraordinaire que manifeste notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne veulent rien savoir. Dites-nous par quelle autorité vous faites ces choses, ou quel est celui qui vous a donné ce pouvoir. Continuons, versets 9 à 12, en bas de la page 25. « Alors il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, et la loua des vignerons, puis lui-même il fut pendant longtemps hors du pays. Et dans la saison, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'ils lui donnassent du fruit de la vigne. Après l'avoir battu, ils les renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur, mais ils le battirent aussi. Et après l'avoir accablé d'outrage, ils le renvoyèrent les mains vides. » Il envoya encore un troisième qui blessèrent aussi les chasseurs. Bon, cette parabole est très connue dans plusieurs évangiles. Et elle est très facile à expliquer. Cette vigne, c'est la vigne de l'Église catholique. Et le maître qui plante la vigne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et les vignerons, bon, sont ceux qui sont en charge de la vigne. Donc la vigne, ce n'est pas simplement l'Église catholique, c'est aussi la vigne personnelle de chacun d'entre nous. Donc cette vigne représente aussi la vigne personnelle dont nous avons à faire fructifier. Il faut tailler la vigne, il faut nettoyer la vigne, il faut protéger la vigne contre la sécheresse, contre l'humidité quand il y en a trop, contre les insectes qui vont la dévorer. Vous voyez, on est tous en charge d'une vigne. Et en fait, ici, strictement parlant, cette vigne, c'est... c'est le monde, si vous voulez. Et le maître, Dieu le Père, va envoyer donc des serviteurs, ce sont les prophètes, vers les vignerons, vers ceux qui sont en charge de la vigne, vers ceux qui sont les gérants de la vigne. Il envoie différents serviteurs pour qu'ils donnassent du fruit de la vigne. Et pour que cette vigne donne du fruit, donne des raisins. Et au lieu de recevoir ces prophètes, ils vont le battre, ils vont les battre et les renvoyer les mains vides. Alors le maître envoie un autre serviteur, d'autres prophètes, mais ils le battirent aussi. Ils le battirent aussi. Et après avoir accablé d'outrage, ils leur envoyèrent les mains vides. Puis encore un troisième. On voit comment ces différents prophètes, au cours de l'histoire du monde, de l'histoire de l'Église, de l'histoire de l'Ancien Testament, on voit comment les différents prophètes arrivent, avec tous ces petits prophètes, les grands prophètes, qui arrive pour annoncer le Messie. Et au lieu d'être acceptés par les Juifs qui devaient attendre ce Messie, bien, ils vont être rejetés et beaucoup d'entre eux vont subir des persécutions épouvantables. Certains d'entre eux vont même être tués. Donc voyons un petit peu le commentaire des Pères de l'Église en bas de la page 25. La plupart des interprètes diffèrent sur la signification de la vigne dont parle ici notre Seigneur, mais il faut s'en tenir à l'explication d'Isaïe, qui dit clairement que la vigne du Dieu des armées, c'est la maison d'Israël. Donc la maison d'Israël, c'est le symbole de l'Église, si vous voulez. Bon, l'Église de l'Ancien Testament, c'est l'Église juive, et l'Église du Nouveau Testament, c'est l'Église catholique. Quel autre que Dieu a planté cette vigne? Et donc, quand on plante une vigne, on a le droit d'exiger des fruits du régisseur de cette vigne. On doit donner du fruit. Rappelez-vous la parabole des talents, c'est la même image. J'ai reçu des 5 talents, il faut que j'en donne 10. J'ai reçu 10 talents, il faut que j'en donne 20. Je dois faire attention à faire fructifier les dons que j'ai reçus, les mines que j'ai reçues, les talents que j'ai reçus, pour ne pas être jugé comme le serviteur infidèle. Serviteur infidèle qui faisait des malhonnêtetés, mais il est renvoyé. Notre Seigneur va lui demander, rends compte de ta gestion, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné, qu'as-tu fait du bien que je t'ai confié. Donc ce bien que Dieu nous confie ne nous appartient pas, notre âme ne nous appartient pas strictement parlant. Et bien là c'est pareil, cette vigne représente donc l'Église. Cet homme qui a planté cette vigne est le même qui, dans une autre parabole, loue des ouvriers pour travailler à sa vigne. Il y a plusieurs paraboles similaires qu'on peut étudier en parallèle, dans les synoptiques surtout. Donc c'est la vigne du Dieu des armées. Le Dieu des armées, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu. Et donc la vigne de Dieu, c'est l'Église catholique. Au sens général et au sens particulier, la vigne de Dieu, c'est notre âme. Notre âme est la vigne de Dieu. Dieu a planté une vigne dans notre âme. Il nous demande de nous occuper de cette vigne. Malheur à celui qui refuse s'en occuper. Passons au commentaire à la page 26, commentaire de Saint Eusèbe. Dans la parabole d'Isaïe, c'est à la vigne que le Seigneur adresse ses reproches. Ici, au contraire, ce n'est pas à la vigne, mais au vigneron. Il a loué des vignerons, c'est-à-dire aux anciens du peuple, aux princes des prêtres et aux grands de la nation. Donc nous sommes les vignerons. Évidemment, chacun est vigneron à son niveau. Les laïcs sont vignerons de leur vigne, les prêtres sont vignerons, mais à un niveau plus élevé, les évêques encore au-dessus, et le pape encore au-dessus. Mais même le pape n'est pas propriétaire de la vigne du Seigneur. Le pape est l'intendant supérieur de la vigne du Seigneur. Mais au-dessus, il y a le propriétaire. L'intendant, même celui qui a une haute autorité, n'est pas propriétaire de la vigne. Autre explication, tout homme est à la fois la vigne et le vigneron, car chacun de nous se cultive lui-même. Or, après avoir confié sa vigne au vigneron, il s'en alla, c'est-à-dire qu'il les laissa faire à leur gré, il s'en alla pour longtemps en voyage. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne tout ce qu'il faut pour aller au ciel. Mais il ne va pas nous prendre par la main, littéralement, pour nous obliger à aller au ciel contre notre volonté si nous ne voulons pas y aller. Donc ce départ en voyage, c'était au verset 9, il plante la vigne, il loue la vigne à 10 vignerons, et cet homme part pendant longtemps hors du pays. Hors du pays. Donc il va laisser les vignerons se débrouiller par eux-mêmes. Pour bien manifester qu'il respecte notre libre arbitre. Il ne va pas être constamment sur notre dos pour nous obliger à nous comporter comme des catholiques. Et le bon Dieu respecte notre libre arbitre, et on le voit très bien aujourd'hui. Il respecte notre libre arbitre, il laisse les gens utiliser leur intelligence avec la lumière d'en haut, bien sûr. Il laisse les gens utiliser leur intelligence, et il y en a beaucoup qui refusent. On voit très bien dans plusieurs passages, surtout dans l'histoire de l'Église, comment certains martyrs ont fait des miracles extraordinaires, convertissent la moitié de l'amphithéâtre qui assiste à la mort des martyrs, et puis le prince ne se convertit pas. Eh bien, le bon Dieu respecte notre libre arbitre. Aujourd'hui, on le voit très bien, le bon Dieu pourrait convertir. C'est magnifique qu'il nous renvoie un Saint Pie X. Qui nous renvoie un pape. Donnez-nous un pape, on peut le demander, notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, demandez et vous recevrez. Mais il faut encore que ça soit sa volonté de nous donner maintenant, et comme nous le demandons, ce que nous demandons. Mon Dieu a peut-être d'autres idées. Donc c'est cet passage des pères est important, il laisse les vignerons agir à leur gré. Mais un jour, ces vignerons auront des comptes à rendre, rends compte de ta gestion. On peut expliquer ce passage de Saint Luc, au chapitre 20, avec un passage similaire qu'on a déjà expliqué d'ailleurs dans Saint Luc, chapitre 16. Un homme riche avait un économe. Celui-ci fut accusé auprès de lui d'avoir dissipé son bien. Il le fit venir et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de vous? Rendez compte de votre gestion, car désormais vous ne pourrez plus gérer mon bien. » Eh bien, c'est l'image, évidemment, du jugement particulier. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre, je crois, ce texte. Donc, différents avertissements sont les différents serviteurs qui sont envoyés, les différents prophètes, sont les différents avertissements que le bon Dieu nous donne au cours de notre vie. Il nous prévient par la parole d'un prêtre, par la parole d'un bon ami, par certaines épreuves que nous avons. La maladie, par exemple, peut être une épreuve pour nous préparer à changer de vie. Il nous prévient, il nous envoie plusieurs serviteurs pour lui dire « Attention, nous allons mourir. Attention, préparez votre lampe. » Et puis, malheureusement, un jour, si nous ne voulons pas changer, il va nous donner un certain nombre de chances, et puis un beau jour, c'est fini. Un autre passage parallèle, c'est l'histoire du jardinier qui a un arbre, un figuier, qui ne donne pas de fruits. Il n'est pas propriétaire du figuier, mais il est en charge de ce jardin dans lequel il y a un beau figuier. Mais le figuier, il donne des feuilles, pas de fruits. Alors le maître arrive en disant, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, comment se fait-il que ce figuier ne donne pas de fruits? On va le couper, le jeter, le brûler au feu, il prend la place pour rien. Et le jardinier plaide en disant, mais maître, peut-être que je pourrais mettre encore un peu de fumier autour du tronc, puis m'en occuper d'une façon toute spéciale, et puis on verra si vraiment, à la fin de l'année, au moment où les figues doivent apparaître et l'arbre doit donner du fruit, si on voit qu'il n'y a rien qui arrive, à ce moment-là, oui, vous pourrez le couper, mais donnez-lui encore une chance. Et le bon Dieu nous donne des chances, jour après jour, parfois pendant des années et des années. Puis un beau jour, c'est la mort. C'est pour ça qu'il faut se préparer, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu qu'il viendrait comme un voleur. Donc c'est cet homme qui part en voyage, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui respecte notre libre arbitre. Autre interprétation, bon, pour ces différents serviteurs, là ici dans ce passage, il y a trois serviteurs différents, verset 10, verset 11 et verset 12. Verset 10, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donnasse du fruit de la vigne. Verset 11, il envoya encore un autre serviteur, mais ils le battirent. Et après avoir accablé d'outrage, il renvoya les mains vides. Enfin, verset 12, il envoya encore un troisième serviteur qu'il blessèrent aussi et chassèrent. Donc, selon certains pères, cet autre serviteur, c'est David. David qui fut envoyé de Dieu après la promulgation de toutes les observances de la loi pour exciter par les chants harmonieux des psaumes les ouvriers de la vigne à la pratique des bonnes œuvres. Mais au lieu de l'écouter, ils dirent, « Quelle part avons-nous avec David et qu'attendons-nous du fils d'Isaïe ?» Ayant ainsi battu et chargé d'outrage, ce second serviteur, ils leur envoyèrent les mains vides. Cependant, le maître ne s'en tint pas là. Il en envoya un troisième serviteur. Selon certains pères, ce sont les cœurs des prophètes qui ne cessèrent de faire entendre au peuple leur enseignement et leur réclamation. Donc, soit le serviteur représente un prophète définitif, par exemple un des grands prophètes ou un des petits prophètes. Donc les grands prophètes sont au nombre de 4, il y a Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Et il y a 12 petits prophètes, moins connus, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Mais ces serviteurs qui sont envoyés représentent justement les différents prophètes. Alors pour certains pères, c'est des prophètes individuels, soit le cœur des prophètes en général, qui ne cessèrent de faire entendre au peuple leurs renseignements, leurs réclamations. Mais quel est celui des prophètes que le peuple n'est persécuté? Ils le blessèrent et le jetèrent dehors. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, nul n'est prophète en son pays. Selon d'autres pères, on va voir ça après, selon d'autres pères, ces différents prophètes représentent différentes étapes de la vie d'Israël. De la vie de l'Ancien Testament, des Hébreux de l'Ancien Testament. Le premier prophète, d'après certains pères, représente les lois. Deuxième prophète, les psaumes, donc ici David. Et troisièmement, les prophètes en général. Donc il y a plusieurs interprétations, les pères ne sont pas d'accord entre eux. Notre Seigneur, dans ses trois serviteurs différents, a voulu comprendre les docteurs de la loi mosaïque, d'après une autre interprétation. Interprétation qu'il autorise lui-même, parce qu'il dit dans un autre endroit, il est nécessaire que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes s'accomplissent. Donc ces différents serviteurs qui sont envoyés par le propriétaire du champ, de la vigne, représentent les différents âges de l'histoire de l'Église. L'Église, strictement parlant, la fondation de l'Église, d'après certains pères, la fondation de l'Église est symbolisée par la création d'Ève à partir de la côte d'Adam. un très très beau, très beau, une très belle signification symbolique. Dieu ouvre le côté d'Adam, endort Adam, et de ce côté d'Adam va sortir la première Ève. C'est déjà le symbole de l'Église qui est là. Après, on retrouve le même symbole dans l'Arche de Noé. L'Arche de Noé représente l'Église. Mais Noé qui ouvre le côté de l'Arche de Noé pour envoyer d'abord le corbeau qui revient parce qu'il n'a pas trouvé un endroit sec pour poser ses pattes, ou la colombe qui va finir par revenir avec un rameau d'olivier, tout ça représente l'Église. Et le troisième symbole, encore plus beau, encore plus grand, plus noble, c'est évidemment l'ouverture du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, d'où sort le sang et l'eau sur la croix. Mais ce sang et cette eau sont encore un symbole de l'Église. Donc, ça, après certains, vous voyez, il y a une différence d'interprétation chez les pères. Donc, parfois, c'est David qui est représenté là, le cœur des prophètes, les docteurs de la loi mosaïque. On verra après, plus tard, je crois que c'est un peu plus loin, d'autres symboles, la loi, les psaumes et prophètes. Avançons. Alors là, les explications deviennent de plus en plus claires. Au début, on peut un peu avoir du mal à comprendre la parabole, mais là, les choses deviennent très claires. Versets 13 à 18 du chapitre 20 de Saint Luc. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être en le voyant éprouveront-ils du respect. Mais lorsque les vignerons le virent, ils pensèrent en eux-mêmes et dirent, celui-ci est l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et l'ayant chassé hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra et lui fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Ayant entendu cela, ils lui dirent, à Dieu ne plaise. Mais lui, les regardant, dit, qu'est-ce donc que ceci qui est écrit, la pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la tête de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. C'est très clair. Donc Dieu le Père envoie son Fils bien-aimé, donc Dieu le Fils, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui va prendre une nature humaine pour pouvoir venir sur la terre comme homme, homme-Dieu, Dieu fait homme, et prêcher l'évangile, et homme pour pouvoir souffrir, pour pouvoir mourir. Et les vignerons, c'est-à-dire le peuple juif, quand ils virent arriver notre Seigneur Jésus-Christ, au lieu de le reconnaître comme Messie, pour la plupart d'entre eux, vont le chasser, celui-ci est l'héritier, ils vont non seulement le chasser, comme avaient fait déjà les princes des prêtres avant eux, mais ils vont le tuer pour que l'héritage soit à eux. Donc ils vont transformer un héritage spirituel en un héritage matériel. Ils attendent un Messie humain, un Messie glorieux humain. Et ils n'ont pas compris la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est venu, un Messie souffrant. Saint-Pierre lui-même va reprendre ses reproches. On voit ça très bien après le miracle de Saint-Pierre avec le boiteux de la belle porte. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3e, je vous lis le passage. Il va reprocher aux Juifs les mêmes choses. Voilà ce qu'il dit, homme d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de ceci? Pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre vertu, par notre puissance que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus que vous avez, vous, livré et renié devant Pilate quand il jugeait lui-même de le renvoyer. Car c'est vous qui avez renié le saint et le juste. Vous qui avez demandé qu'on vous remît un meurtrier, c'est Barabbas. Vous avez tué l'auteur de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Il termine en disant, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi cet homme que vous voyez et connaissez. Et c'est la foi qui vient par lui qui a opéré en votre présence cette entière guérison. On retrouve les mêmes idées dans de nombreux textes de l'Ancien Testament. Le plus beau peut-être et le plus connu, c'est un texte justement d'un des grands prophètes Isaïe au chapitre 53. Je vous lis ce magnifique chapitre 53. Qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Et il montera comme une branche menue devant lui, comme un rejeton d'une terre altérée. Il n'y a ni éclat, ni beauté. Et nous l'avons vu, il n'avait pas un aspect agréable, et nous l'avons désiré. Méprisé est le dernier des hommes, homme de douleur et connaissant l'infirmité. Son visage était comme caché, méprisé, et nous l'avons compté pour rien. Il a vraiment lui-même pris nos longueurs sur lui, et il nous a même porté nos douleurs. Il a lui-même porté nos douleurs, et nous l'avons considéré comme un lépreux, frappé de Dieu et humilié. Mais lui-même, il a été blessé à cause de nos iniquités, il a été brisé à cause de nos crimes. Le châtiment pris de notre paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous tous, comme des brebis, nous avons erré. Chacun s'est détourné vers sa voie, le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu, il n'a pas ouvert sa bouche. Comme une brebis, il sera conduit à la tuerie, et comme un agneau devant celui qui le tond, il sera muet et n'ouvrira pas sa bouche. À la suite des angoisses et des jugements, il a été enlevé. Qui racontera sa génération? Car il a été retranché de la terre des vivants. À cause du crime de mon peuple, je l'ai frappé. Et il donnera des impies pour sa sépulture et un riche pour sa mort, parce qu'il n'a pas commis d'iniquité, que la tromperie n'a pas été dans sa bouche. Mais le Seigneur a voulu le briser dans son infirmité. S'il donne pour le péché son âme, il verra une race de longue durée, et la volonté du Seigneur par sa main sera dirigée. De ce que son âme a souffert, il verra le fruit, il sera rassasié. Par sa science, mon serviteur justifiera lui-même un grand nombre d'hommes, et leur iniquité lui-même les portera. C'est pour cela que je lui départirai un très grand nombre d'hommes et distribuera les dépouilles des forts, parce qu'il a livré à la mort son âme et qu'il a été compté parmi les scélérats, parce qu'il a porté les péchés d'un grand nombre et qu'il a prié pour les transgresseurs. Oui, on retrouve bien dans tous ces textes des prophètes l'annonce du Messie souffrant. Il est donc nécessaire que tout ce qui est écrit de moi, dit notre Seigneur, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, s'accomplisse. Donc il y a encore une fois plusieurs interprétations possibles. Alors voyons un petit peu le commentaire de ces versets 13 à 18. Les Juifs, c'est page 26, donc en bas de la page. Les Juifs perfides. Alors je précise tout de suite que le mot perfide veut dire les Juifs sans foi, perfides. À travers la foi, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas gardé la foi, c'est ça que ça veut dire. Les Juifs perfides, donc sans foi, voulant se défaire du Fils unique que Dieu leur envoyait et qu'ils refusaient de reconnaître pour héritier, le chassèrent en le reniant, et le mirent à mort en l'attachant à une croix. Les vignerons, l'ayant vu, dirent en eux-mêmes, voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit pour nous. C'est le verset 14. Jésus-Christ est donc tout à la fois l'héritier et le testateur. L'héritier parce qu'il a survécu à sa propre mort et que nos progrès dans le bien sont comme les biens héréditaires qu'il reçoit en vertu des testaments qu'il a faits en notre faveur. Il a été jeté hors de la vigne avant d'être mis à mort parce qu'il a été repoussé du cœur des infidèles avant d'être attaché à la croix. C'est l'allusion qui est faite ici au verset 14. Celui-ci est l'héritier. Tuons-le afin que l'héritage soit à nous. Et donc on voit très bien ici dans le passage, dans les commentaires des pères, que dans les textes sacrés lui-même, que les vignerons savaient qu'il était l'héritier. Donc le maître, le propriétaire de la vigne, envoie son fils, j'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être qu'en le voyant, ils éprouveront du respect. Donc ils savent très bien qui arrive. C'est le maître qui envoie son propre fils. Le fils représente le maître. Mais tout en connaissant, reconnaissant qu'il est bien le fils héritier, eh bien, ils vont le chasser hors de la vigne et le tuer. Vous voyez ? D'où cette phrase, il a été jeté hors de la vigne avant d'être mis à mort parce qu'il a été repoussé du cœur des infidèles avant d'être attaché à la croix. Alors, au verset 17, il est parlé de la pierre. La pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la tête de l'angle, la pierre angulaire qui va faire trébucher ceux qui l'ont rejetée. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé et celui sur qui elle tombera l'écrasera. Rappelez-vous la prophétie qui avait été faite sur notre Seigneur Jésus-Christ. Cet enfant sera pour la ruine ou la résurrection de notre Seigneur Jésus. La ruine ou la résurrection de beaucoup en Israël. Eh bien, ceux qui acceptent d'utiliser cette pierre vont l'utiliser pour notre Seigneur, la pierre angulaire, ils vont l'utiliser à ce moment-là pour leur résurrection, la montée au ciel. Mais ceux qui vont refuser cette pierre, qui vont rejeter cette pierre, qui est la tête d'angle, vont devoir utiliser cette pierre pour leur destruction. Ça sera la chute en enfer. Voilà ce que disent les pères en bas de la page 26. Le Christ est comparé ici à une pierre à cause de son corps d'une nature terrestre. C'est l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ ici dont il est fait allusion. Cette pierre a été détachée de la montagne sous la main d'aucun homme selon la vision de Daniel. Chapitre 2e verset 34. Ici dans ce texte, il est fait donc allusion à une vision, à une explication que va donner le prophète Daniel au roi Nabucodonosor. Je vous cite le passage. Il est un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères et qui vous a montré au roi Nabucodonosor les choses qui doivent arriver dans les derniers temps. Votre songe et les visions de votre tête dans votre lit sont de cette sorte. À moi, ce secret m'a été révélé, non par une sagesse qui est en moi plus qu'en tous les êtres vivants, mais afin que l'interprétation devint manifeste pour le roi, que vous connussiez les pensées de votre esprit. Vous, ô roi, vous voyez, et voilà comme une grande statue, et cette statue grande et considérable par la hauteur se tenait debout devant vous, et son regard était terrible. La tête de cette statue était d'or très pur, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, mais les jambes de fer, une partie des pieds était de fer, mais l'autre d'argile. Et voilà l'histoire de la pierre. Vous voyez ainsi, chapitre 2 de Daniel, au verset 34, vous voyez ainsi jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée de la montagne sans les mains d'aucun homme. Et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et elle les mit en pièces. Alors furent brisés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la cendre brûlante d'une aire d'été et ils furent emportés par le vent. Il ne se trouva aucun lieu pour eux, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Bon, c'est un passage un peu difficile à comprendre, mais ici, la pierre représente le Christ. Donc ce Christ qui est méprisé parce qu'elle est toute petite humainement parlant, et c'est le symbole de l'incarnation. La pierre représente le présent, représente la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette pierre est détachée de la montagne sans main d'homme. Pourquoi? Parce que cette pierre vient directement de Dieu. Cette nature humaine est apparue dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie sans l'utilisation d'une semence humaine. C'est donc une nature humaine unie à la divinité dans la même personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et cette pierre qui va être rejetée est devenue la pierre angulaire qui sera ou pour la destruction ou pour le salut des hommes selon qu'ils l'acceptent ou qu'ils la refusent. Donc ceux qui bâtissaient l'ont rejetée. La pierre a été rejetée par ceux qui baptisaient, elle est devenue la tête de l'angle. Les princes du peuple l'ont rejetée lorsqu'ils ont dit « Cet homme ne vient pas de Dieu ». Cependant, cette pierre était si utile et d'un si grand choix qu'elle est devenue le sommet de l'angle. Donc cette pierre représente notre Seigneur Jésus-Christ et qui est méprisée. La pierre était le Christ. On voit très bien dans l'Ancien Testament, pendant la pérégrination des Hébreux au désert, comment Moïse va frapper le rocher, justement, et de ce rocher va sortir l'eau qui va permettre au peuple hébreu de ne pas mourir de soif, eux et leurs animaux. Eh bien, cette pierre est le Christ. Elle est devenue, donc, le sommet de l'angle. Selon Saint Cyrille, L'angle, dans le langage de la Sainte Écriture, représente l'union des deux peuples juifs et gentils dans une même foi. Car de ces deux peuples, le Sauveur n'a formé lui-même qu'un seul homme nouveau en les réunissant tous deux en un seul corps, les a réconciliés à Dieu. Il est donc une pierre de salut pour l'angle qu'il a construit, mais devient une cause de ruine pour les Juifs qui s'opposent à cette union spirituelle des deux peuples. Normalement, il devait y avoir un passage du peuple juif au peuple des gentils. Les peuples juifs, en quelque sorte, on peut dire que le peuple des gentils va grandir sur les épaules du peuple juif. Le peuple juif représente la racine, et la tige, c'est le peuple des gentils, donc qui va pousser sur le peuple juif qui amène le Messie. Le rôle extraordinaire du peuple juif dans l'Ancien Testament, c'était d'être le véhicule, en quelque sorte, l'instrument qui allait amener au monde le Messie. Hélas, quand le Messie est arrivé, ce peuple a refusé le Messie. Autre interprétation, on a la page 27 maintenant. Saint Ambroise. Cette vigne est encore notre image. Dieu, le Père, est le laboureur, Jésus-Christ est la vigne, nous sommes les branches. C'est à juste titre que le peuple chrétien est appelé la vigne du Christ, ou parce qu'il porte sur le front le signe de la croix, soit parce que son fruit n'est cueilli que dans la dernière saison de l'année, soit parce que dans l'Église, les pauvres et les riches, les serviteurs et les maîtres sont placés indistinctement comme les ceps de la vigne. Donc devant Dieu, nous sommes tous égaux en nature, même si nous serons tous jugés en fonction de justement de la quantité de raisins que cette vigne va porter. N'oublions pas que pour que le raisin puisse arriver sur les sarments, il faut que les sarments soient taillés. Si la vigne n'est pas taillée, que le vigneron laisse la vigne pousser n'importe comment, il n'y aura pas de grain, ou il n'y aura que des grappillons qui ne donneront qu'une liqueur insipide, amère, et pas un bon vin. Donc la vie purgative est nécessaire pour avoir du fruit. Cette vie purgative est représentée par la taille de la vigne. Voilà ce que disent les pères, page 27. De même que la vigne se marie aux arbres autour desquels elle s'enlace, ainsi le corps est étroitement uni à l'âme. Le vigneron diligent prend donc soin de cultiver, de tailler cette vigne pour retrancher la trop grande abondance de feuilles et cette stérile ostentation de paroles qui paralyse la force naturelle de la vigne et empêche son fruit de parvenir à la maturité. Donc, cette taille de la vigne qui est douloureuse parce qu'il faut couper, tailler dans le vif littéralement, cette taille de la vigne représente la vie purgative, la vie de pénitence. Purgare en latin, c'est la pénitence. Donc on ne peut pas arriver à la vie illuminative sans passer par une purification qui s'appelle justement la vie purgative, puis ensuite la nuit d'essence avant d'arriver en vie illuminative et pouvoir recevoir les lumières du Saint-Esprit. Et avant de pouvoir passer, monter carrément jusqu'au niveau du ciel, par la vie unitive, la vie mystique, il va falloir passer par une autre purification, une deuxième taille en quelque sorte, qui est la nuit des... Donc la première taille c'était la nuit des sens, deuxième taille c'est la nuit de l'esprit qui est encore plus grande, plus pénible. Avec la nuit des sens, Dieu va enlever toutes les consolations sensibles. Mais avec la nuit de l'esprit, Dieu va enlever, à celui qui s'élève vers lui, il va enlever dans cette âme qui s'approche de lui, toutes les consolations intellectuelles. On a l'impression d'être dans un tunnel. Certains saints sont passés par des épreuves terribles. On voit très bien ça chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait l'impression d'être dans un tunnel. Elle voyait simplement une lumière au bout du tunnel, c'est tout ce qu'elle voyait. La vendange de cette vie se fait par tout l'univers, puisqu'elle est répandue jusqu'aux extrémités du monde. Donc le monde, cette vie représente le monde entier. Alors, d'autres interprétations, j'ai pris... Il y a beaucoup de choses à tirer, j'ai pris certains exemples. Cette fois-ci, c'est Saint Bède le Vénérable, qui donne le sens moral. On voit très bien qu'il n'y a pas consensus chez les pères. Chaque père interprète peut-être de façon un peu différente. Donc, au sens moral, Dieu donne à chaque fidèle la vigne à cultiver, puisqu'il lui confie le soin de faire fructifier le baptême qu'il a reçu. De même que le cep de vigne doit donner des fruits, doit donner des grappes. De la même façon, le baptême doit nous faire fructifier. Il ne s'agit pas simplement d'avoir reçu le baptême et après en disant « bon ça va, j'ai reçu le baptême, tout va bien ». Et après, il faut faire fructifier, il faut donner du fruit. Et si je ne donne pas du fruit, ben je serai condamné comme le serviteur infidèle, l'intendant infidèle qui n'a pas donné de fruit et qui va être puni par son maître. Il envoyait dans le lieu des pleurs des grincements de dents. Donc, il faut faire fructifier notre vigne. Dieu envoie en premier, un second, puis un premier. Avec une faute d'orthographe, une faute de mots. C'est, Dieu envoie un premier, un second, puis un troisième serviteur. Lorsqu'il lui fait lire la loi, les psaumes et les prophètes. On voit ici, autre interprétation dont j'ai déjà un peu parlé auparavant. Le premier serviteur représente, d'après Saint Ben, la loi. Deuxième serviteur, les psaumes de David. Troisième serviteur, les prophètes. Le serviteur qu'il envoie est couvert d'outrage et déchiré de coups. Lorsqu'on méprise ou qu'on blasphème la parole qu'on entend. Et on met à mort l'héritier, autant qu'on peut le faire, lorsqu'on foule aux pieds le Fils de Dieu par ses péchés. Donc, par chaque fois que j'ai commis un péché, si vous voulez, je prends littéralement la couronne du Christ roi, qui est sur la tête royale de notre Seigneur Jésus-Christ, je la place sur ma propre tête en disant « Je ne servirai pas, non serviam ». Donc le mauvais vigneron ayant reçu le châtiment qu'il mérite, mauvais vigneron ici, d'après le texte de Saint Bède, c'est bien la représentation du peuple juif, il refuse le Messie qui arrive, pourtant qui a été annoncé et préparé par tous les enseignements des différents prophètes pendant presque 6 ou 7 000 ans. Donc la vigne va être confiée à un autre. C'est la substitution, le peuple catholique qui va prendre la place du peuple juif parce que le peuple juif rejette le Messie. La vigne est donc confiée à un autre lorsque l'humble fidèle s'enrichit du don de la grâce que le superbe a méprisé. Donc c'est aussi le symbole de notre propre conversion. Il y a des gens qui se convertissent et des gens qui ne se convertissent pas. Les gens qui se convertissent vont pouvoir avoir leur vigne donner du fruit, mais il y a des gens qui, là, ne se convertissent pas, ne veulent pas changer, et au lieu de donner du bon fruit qui va donner un bon vin, une bonne liqueur exquise, eh bien, cette vigne ne va donner que des grappillons qui seront incapables de donner un bon vin. Donc cette vigne confiée à un autre, c'est le symbole du peuple catholique. Avançons avec les versets 19 à 26 du chapitre 20 de Saint-Luc, page 27. Les princes des prêtres et des scribes cherchaient à mettre les mains sur notre Seigneur à cette heure même, mais ils craignaient le peuple, car ils avaient reconnu que c'était contre eux qu'il avait dit cette parabole. Et les pions, ils envoyèrent des hommes artificieux qui feindraient d'être justes pour le surprendre dans ses paroles afin de le livrer à l'autorité et à la puissance du gouverneur. Et ils l'interrogèrent en disant « Maître, nous savons que vous parlez et enseignez avec droiture et que vous n'avez pas d'égard aux personnes mais que vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité. Nous est-il permis de payer le tribut à César ou non ?» Considérant leur ruse, il leur dit « Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'image et l'inscription ?» Ils lui répondirent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, ayant admiré sa réponse, il se tue. Vous voyez, on voit très bien, au lieu de reconnaître la grandeur de ce Messie qui s'annonce là, qui se présente à eux, ils vont le rejeter. C'est toute l'hypocrisie dont il a déjà été parlé au début de ce chapitre 20, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué en début de ce cours, qui, malgré les miracles de notre Seigneur, refuse d'ouvrir les yeux. Dites-nous par quelle autorité vous faites ces choses, quel est celui qui vous a donné ce pouvoir. Et si on revoit la même image au verset 20, ils envoyèrent des hommes artificieux, dit le texte sacré, qui feindraient d'être justes pour le surprendre dans ses paroles afin de le livrer à l'autorité et à la puissance du gouverneur. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va faire des miracles extraordinaires. On le voit très bien, par exemple, à la fin de sa vie terrestre, il va ressusciter Saint Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, qui était dans la tombe depuis quatre jours, qui sentait déjà, à cause de la chaleur, la décomposition du corps. Le corps était déjà en proie à la décomposition des cellules. Notre Seigneur a fait un miracle extraordinaire. Lazare sort dehors. Des centaines de gens qui assistent à ce miracle se convertissent. Et à ce moment-là, il y a cette phrase dans l'évangile, alors les pharisiens se réunirent cherchant comment éliminer Jésus, comment tuer Jésus. Donc on peut faire des miracles extraordinaires, Dieu peut faire des miracles extraordinaires, certains se convertiront, mais d'autres qui ne veulent pas utiliser leur libre arbitre pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ le refuseront de toute façon. Donc en cherchant à faire mourir le sauveur, il confirmait la vérité de ce qu'il avait dit dans cette parabole, qu'il avait dit dans cette parabole. Car il était l'héritier dont la mort injuste devait être vengée par le châtiment des meurtriers, et ils étaient eux-mêmes ces méchants vignerons qui cherchaient à faire mourir le Fils de Dieu. Rappelez-vous le verset 16, le maître viendra et fera périr ses vignerons, il donnera la vigne à d'autres. Périr les vignerons, c'est évidemment l'annonce là déjà de la prise de Jérusalem par Titus, 71, il donnera la vigne à d'autres, donc cette vigne qui change de propriétaire, hein, littéralement, ou qui change de régisseur, c'est la vigne qui passe du peuple de l'Ancien Testament au peuple du Nouveau Testament. Le peuple juif de l'Ancien Testament va laisser la place au peuple nouveau, le peuple des catholiques. Donc, ici, les pères parlent bien de ces méchants vignerons qui cherchaient à faire mourir le Fils de Dieu. Page 28, on avance dans ces textes. Je vais essayer de terminer ce chapitre 20 aujourd'hui. Il y a deux images dans l'homme. L'une qu'il a reçue de Dieu, comme il est écrit dans la Genèse, faisons l'homme à notre image. Et l'autre qui est l'image de son ennemi, que le péché et la désobéissance ont comme gravé sur son âme lorsqu'il s'est laissé gagner, entraîné par les séductions du prince de ce monde. En fait, il y a trois images ici dont il est fait allusion. Il y a une image, l'image de l'homme, il y a la ressemblance, l'image de Dieu dans l'homme, la ressemblance de Dieu dans l'âme, et l'image de l'ennemi qui est l'image du démon. Donc il peut y avoir trois images dans mon âme. Soit l'image naturelle de Dieu, par le fait que j'ai une âme spirituelle, substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, le fait que j'ai une âme rappelle que Dieu nous a dit qu'il a créé l'homme à son image. On est créé à l'image de Dieu, non pas par notre corps, mais par notre âme. Mais il y a une deuxième image, c'est l'image, si vous voulez, au niveau surnaturel, on est créé pas simplement à l'image de Dieu par l'existence de notre âme, mais à la ressemblance de Dieu par la vertu de charité en nous, par le baptême. Mais lorsque je commets un péché, lorsque je perds la grâce sanctifiante, eh bien, je vais avoir une troisième image qui va s'imprimer. Ce ne sera plus l'image de Dieu ni la ressemblance avec Dieu. C'est l'image du démon qui va, l'image de mon ennemi, le démon qui va prendre la place de l'image divine sur mon âme. On peut dire que le Père de l'Église compare souvent l'âme à un miroir. Le miroir peut refléter plusieurs choses. Peut refléter l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu pour le baptisé catholique qui vient en état de grâce, et malheureusement aussi une autre image, l'image du démon, lorsque je donne mon âme au démon par le péché. Car de même, page 28, qu'une pièce de monnaie porte l'image du roi de la terre, ici c'est à César qu'il est fait allusion, ainsi celui qui fait les œuvres du prince des ténèbres porte en lui l'image de celui dont il a fait l'épreuve. On trouve la même image, vous voyez, la même idée, c'est-à-dire qu'on change en quelque sorte d'image sur le miroir de notre âme. On passe du miroir de l'image de la ressemblance de Dieu à l'image du démon. Je porte à ce moment-là celui dont je fais les œuvres. C'est pour ça que le Seigneur dit, rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire effacez cette image terrestre, afin que retraçant en vous l'image céleste, vous puissiez rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire l'aimer de tout votre cœur, car c'est là ce que Dieu demande, et vous, comme Moïse le disait, de vous, comme Moïse le disait à son peuple. Vous voyez donc, j'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Et si je refuse Dieu, je vais être créé pour louer, honorer, servir le démon. Je ne peux pas servir les deux à la fois, ni ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou j'adorerai le premier, j'haïrai le second, ou je haïrai le premier et j'adorerai le second. Avançons avec les versets 27 à 40, page 28. Quelques-uns des Sadducéens, qui nient qu'il y ait une résurrection, s'approchèrent ensuite et interrogèrent Jésus en disant « Maître, Moïse a écrit pour nous, si le frère de quelqu'un ayant une femme meurt sans laisser d'enfant, son frère épousera sa femme et suscitera une postérité à son frère. Or il y avait sept frères, et le premier épousa une femme et mourut sans enfant. Le second la prit et mourut lui-même sans enfant. Le troisième la prit aussi, et de même tous les sept. Et ils ne laissèrent pas de postérité, ils moururent. Enfin, après eux tous, la femme mourut aussi. » À la résurrection donc, de quel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur dit, les enfants de ce siècle se marient et sont donnés en mariage, et ceux qui seront jugés dignes du siècle à venir et de la résurrection des morts ne se marieront pas et ne prendront pas de femme, qu'ils n'auront plus mourir, ils ne pourront plus mourir parce qu'ils sont égaux aux anges, qui sont fils de Dieu étant fils de la résurrection. Mais que les morts ressuscitent, Moïse le montre lui-même à l'endroit du buisson lorsqu'il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car tous sont vivants pour lui. Or quelques-uns d'esquiers prenant la parole lui dirent, Maître, vous avez bien répondu, mais n'osaient plus lui faire aucune question. Et on voit encore l'hypocrisie de ces pharisiens, de ces scribes, là c'est des sadducéens, donc c'est une autre secte juive, donc qui essayent de mettre notre Seigneur Jésus-Christ en contradiction avec cette histoire de l'homme de la femme qui a pris sept maris, l'un après la suite de l'autre. Donc, saint Ambroise explique ainsi, dans le sens figuré, cette femme représente la synagogue qui a eu sept maris. Notre Seigneur a dit à la Samaritaine, vous avez eu cinq maris, parce que la Samaritaine n'admettait que cinq livres de Moïse, tandis que la synagogue en reconnaissait sept principaux. Mais par la suite de son infidélité, elle n'en eut aucune postérité, donc elle n'a pas d'enfant. Elle ne peut donc être unie à ses maris dans la résurrection parce qu'elle a entendu dans un sens charnel les préceptes spirituels de la loi. Les Juifs attendaient un Messie humain, un Messie exclusivement politique, un Messie qui mettrait chasserait les Romains et rendrait sa gloire politique à Israël. Ils n'ont pas compris du tout que ce Messie annonçait un royaume bien plus élevé, à savoir le royaume des cieux. Ce ne fut point un frère selon la chair qu'il épousa pour donner des enfants à celui qui était mort, mais le frère qui lui fut donné prit pour épouse après la mort du peuple juif la sagesse du culte divin et en fit naître des enfants spirituels dans la personne des apôtres. Vous voyez donc, on voit très bien ici comment les Juifs n'attendaient que des choses purement humaines et Dieu monte le niveau pour passer au niveau spirituel. On est à la page 29. Donc les apôtres étaient comme le reste des peuples juifs et qui avaient été comme abandonnés dans le sein de la synagogue avant d'être formés, et ils ont mérité d'être sauvés selon l'élection de la grâce comme fruit de cette union toute spirituelle. N'oubliez pas que les apôtres étaient des juifs. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va choisir vraiment une élite parmi ces juifs, d'abord les 12 apôtres, puis les 60... Les premiers disciples qui vont représenter donc les futurs évêques, les futurs prêtres, pour annoncer le message du Messie, le message de notre Seigneur Jésus-Christ, aller prêcher, baptiser. Donc selon saint Bède le Vénérable, c'est sept frères que la femme va épouser l'un après l'autre, figurent les réprouvés qui, pendant toute cette vie, laquelle se compose de semaines de sept jours, sont tout à fait stériles de bonnes œuvres, donc ils ne peuvent pas donner d'enfants parce qu'ils sont stériles. Ils sont enlevés successivement par la mort et leur vie toute mondaine passe de l'un à l'autre jusqu'au dernier comme une épouse stérile. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'intéressent qu'aux choses de ce monde. Et ils ne peuvent pas donner d'enfants parce que le bon Dieu, lui, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend un enfant, un fruit spirituel qu'ils sont incapables de donner parce qu'ils sont attachés au bien de ce monde. Ils adorent tellement les choses de ce monde que ces choses de ce monde empêchent les choses spirituelles de germer. Avançons avec les derniers versets de ce chapitre 20, versets 41 à 47. Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est fils de David ? Puisque David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite. » jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. » David l'appelle donc Seigneur, alors comment est-il son fils ? Tandis que tout le monde l'écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes qui affectent de se promener en robe longue et qui aiment les salutations sur la place publique, les premières chaires dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves sous prétexte de longues prières. Ils recevront une condamnation plus sévère. » Ici, notre Seigneur va faire une allusion supplémentaire justement à cette hypocrisie dont il a déjà parlé auparavant, au début, au milieu de ce chapitre 20, on a déjà expliqué. Il parle justement de l'hypocrisie de ceux qui soignent l'extérieur et qui s'occupent pas, qui soignent le plat, qui s'occupent pas de ce qui est dans le plat, si vous voulez. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils soignent les extérieurs, mais ils s'occupent pas de vivre en état de grâce. La nourriture représente l'état de grâce et le plat représente l'âme qui contient l'état de grâce. Mais une autre comparaison qu'on peut faire, c'est un tabernacle. Le tabernacle de bois ou de métal, c'est pas ça qui est important, c'est le contenu du tabernacle qui compte. Et le contenu du tabernacle, c'est quoi? C'est la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Donc, les scribes, les pharisiens, les membres du Sanhédrin étaient beaucoup trop préoccupés par les choses extérieures, par les habits extérieurs, par les signes, les dignités extérieures. Et puis, ils oubliaient que le bon Dieu demandait d'abord une dignité intérieure, c'est-à-dire l'état de grâce intérieur, l'état de grâce personnel. C'est bien manifesté, ça, pour ceux qui l'ont vu dans le film de Mel Gibson, on voit bien justement l'hypocrisie des pharisiens qui même acculés, je dirais, par notre Seigneur Jésus-Christ, par tous ses miracles et l'exécution des prophéties de l'Ancien Testament, refusent de le croire, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est terrible. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que les Juifs qui prononcent cette parole et que moi je fais la même chose quand je commets une faute grave, hein. Et j'ai déjà expliqué, mais j'insiste là-dessus parce qu'il faut que les gens comprennent ça, nos fidèles comprennent bien ça. Un péché mortel commis par un catholique est bien plus grave que le même péché mortel commis par un juif. Il n'y a pas que les juifs qui crucifient notre Seigneur. Rappelez-vous ce que dit Saint Curé d'Ars, à chaque fois que je commets un péché mortel, je crucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon âme. Donc ici, notre Seigneur Jésus-Christ ne parle pas simplement pour les juifs, il parle pour nous, hein. Il parle de ces faux disciples qui affectent de se promener en robe longue, qui aiment les salutations sur la place publique, les premières chaires dans les synagogues, dans les églises, les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves sous prétexte de longues prières. Donc si je ne suis pas en état de grâce, même si je fais des tas de choses extraordinaires, s'il manque l'essentiel, je serai condamné. Donc il ne faut pas entendre ces paroles, page 29, au milieu de la page. Il ne faut pas entendre ces paroles, asseyez-vous à ma droite dans un sens matériel, comme si le Père était réellement assis à la gauche et le Fils à la droite. La droite ici signifie la puissance de l'humanité unie à la divinité, puissance en vertu de laquelle le Sauveur viendra juger les hommes, lui qui, dans son premier événement, était venu pour être jugé. Donc, vous voyez, là, c'est le symbole de la droite. La droite et de la gauche, on retrouve ça dans l'autel. L'autel à droite, c'est l'épître. Côté épître, l'autel à gauche, c'est l'évangile. Et l'évangile qui est envoyé, qui est adressé aux gentils, aux non-juifs. C'est pour cela que, en principe, dans une église bien orientée, elle doit être orientée face au soleil levant, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est représenté par ce soleil qui se lève, qui amène la lumière du monde. Ici, je n'ai pas fait exprès, mais dans un petit oratoire où je suis, c'est magnifique, dans certaines périodes de l'année, il m'est arrivé plusieurs fois, un petit oratoire est bien orienté, plein est, et il m'est arrivé plusieurs fois, au moment de l'élévation de la Sainte Hostie et du calice consacré, d'avoir le soleil qui se levait juste derrière l'autel, il y a une vitre, il y a une grande fenêtre. Et il m'est arrivé plusieurs fois, au moment où j'ai élevé la Sainte Hostie pour la consécration, la première et l'élévation du calice de la deuxième consécration, d'avoir le soleil qui se levait juste derrière la vitre. C'était magnifique. Donc, Saint Cyril explique que notre Seigneur est assis à la droite du Père parce que sa gloire est la gloire souveraine de Dieu. Ceux en effet qui ont un même trône ont une même majesté. Or cette expression figurée être assis exprime la souveraineté, la puissance de Dieu sur ces choses, sur toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est le maître qui est assis. Le serviteur est debout au pied du maître ou à genoux au pied du maître. Le maître est assis. C'est, la position assise représente la position d'autorité. Notre Seigneur est donc assis à la droite du Père parce que le Verbe consubstantiel au Père n'a pas cessé d'être Dieu en se faisant homme. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. Voilà, donc nous avons terminé ce chapitre 20 de Saint Luc, le dernier chapitre de ce fichier. Donc il nous reste le dernier fichier que, si Dieu veut, nous commencerons la prochaine fois, chapitre 21 à la fin de l'évangile, chapitre 24. Donc c'est toute la partie sur la passion, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ que nous commencerons, si Dieu veut, la prochaine fois. Donc nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.